Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais pas eu triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il ? » Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Alors, pour situer le contexte, il faut savoir que donc Israël avait été en captivité pendant un certain nombre d'années, comme ils avaient désobéi à Dieu. Je crois que j'avais expliqué ça la dernière fois. Donc, après la mort de Salomon, le royaume uni d'Israël avait été divisé en deux. Le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda. le royaume du nord où il y avait 10 tribus, et le royaume du sud où il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin. Et alors, comme les enfants d'Israël persistaient dans leur désobéissance, le royaume du nord en premier a été déporté par les Assyriens. Et quelques années plus tard, Juda donc, persistait aussi dans la désobéissance et ils ont été déportés à leur tour par les Babyloniens. Et alors le prophète Jérémie avait prophétisé disant que voilà, puisque vous avez désobéi, vous serez déportés et Jérusalem sera détruit. Ce qui s'est passé même du temps de Jérémie. Et il avait prophétisé que cet exil durerait 70 ans. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que pour la déportation, cela s'est passé en 3 étapes. Il y a eu une première déportation vers 606 avant Jésus-Christ, où, à ce moment-là, Daniel est du temple. Et puis, il y a un deuxième retour d'exil vers 458 avant Jésus-Christ, sous la conduite d'Esdras. Alors, il y a le livre d'Esdras juste avant Néhémie. Esdras, là, ce sera la restauration du culte. Et puis, un troisième retour d'exil, en 445 avant Jésus-Christ, là, sous la conduite de Néhémie, et ce sera pour la reconstruction de la muraille. Le temple était reconstruit, mais la muraille était toujours, ou les murailles étaient toujours en piteux état. Donc voilà le contexte. C'était donc au moment de l'exil quand nous avons ici la situation avec Néhémie. Alors, qui est Néhémie? Nous voyons ici dans le dernier verset, il est dit « J'étais alors échanson du roi ». Donc, sa tâche, c'était de servir le roi, de lui servir le vin. Et on peut dire que Néhémie avait une position confortable. C'était en Perse, à Suse, la capitale de la Perse. Perse qui est l'Iran actuel. En fait, plus ou moins. Hein. Alors, Néhémie était à la cour du roi. Il servait le vin au roi. Il était dans une position confortable pour lui-même. Cependant, on voit, malgré qu'il était dans une position confortable, eh bien, il pensait quand même à ses frères. Et alors, c'est pourquoi nous lisons donc les premiers versets. « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, donc la 20e année du roi Artaxerxès, hein, qui dominait à l'époque. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Donc, il s'intéresse à ses frères. « Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Et là, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils lui disent « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. » Et là, Néhémie va recevoir un choc. Il dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Comme je dis, Néhémie était à Suse, en Perse, confortablement installé dans la cour du roi, bénéficiant d'un très bon poste, entouré d'honneurs et de privilèges de toutes sortes. Et pourtant, il n'est pas resté indifférent au malheur de ses frères qui sont très loin de lui. Il va s'enquérir de leur sort, de leur situation et sera ému de compassion pour eux. C'est comme Moïse en son temps. Dans Hébreux, il nous a dit que Moïse, il a refusé la gloire du palais égyptien. Moïse était le successeur du pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreux 11, 24 à 27? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est aussi comme Jésus qui a laissé son trône de gloire pour venir jusqu'à nous pécheurs parce qu'il a eu compassion de nous. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et Paul dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Et Jésus, il était toujours plein de compassion. Dans Matthieu 9, 36, il est dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et je crois que, en tant que chrétiens, si nous voulons gagner le monde pour Jésus, il faut avoir de la compassion. Nous ne pouvons pas gagner le monde sans compassion. Et si nous disons, ah voilà, moi je suis bien, tant pis pour les autres, eh bien là nous nous trompons. Il y a un poème qui a été écrit par un pasteur allemand au moment de la Seconde Guerre. Il raconte ceci, donc je vais essayer de traduire, c'est écrit en anglais, en fait, probablement que c'était écrit en allemand, mais ça a été traduit en anglais. Alors voilà, il a dit ceci à propos de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, lorsque les nazis sont venus pour les communistes, je n'ai pas réagi ou je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, on est venu chercher les juifs. Là, je n'ai pas réagi, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Ensuite, ils sont venus prendre les catholiques. Je n'ai rien dit, puisque moi, j'étais protestant. Et puis, ils sont venus me chercher. À ce moment-là, il n'y avait personne pour parler pour moi. Donc, nous ne pouvons pas dire que le malheur de nos frères ne nous concerne pas. Nous ne pouvons pas dire comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Et nous savons qui était Caïn. Celui qui parle ainsi, c'est un meurtrier. Nous ne pouvons pas agir non plus comme l'homme riche face au pauvre Lazare qui mourait de faim, couché à sa porte, couvert d'ulcères. Dans Luc 16, nous lisons, à partir du verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscités. » Alors voilà, nous avons le choix entre agir comme le riche par rapport à Lazare, ou bien comme Caïn, ou bien de réagir comme Néhémie. Néhémie qui se souciait de ses frères lointains, ou Moïse qui se souciait aussi de ses frères, bien que lui-même, il était installé dans un palais, mais il avait à cœur la situation de ses frères. Ou bien comme Jésus lui-même, qui était ému de compassion pour la foule. Voilà donc Néhémie, un homme de cœur. Il ne pensait pas simplement à sa propre situation, mais il pensait aussi à la situation de ses frères. C'est vrai qu'il était bien installé, il avait un poste. Il était rempli de privilèges, de prestige, de gloire. Il avait tout, mais il était intéressé par ses frères. Alors, remarquons aussi, à part la compassion qu'il a eue, regardons aussi sa réaction. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais. Et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Lorsqu'on est troublé, lorsqu'on est perplexe, lorsqu'on est bouleversé, ne sachant que faire, comment s'y prendre, il n'y a qu'une solution, c'est se réfugier dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que Néhémie a fait. Au psaume 73, nous avons une situation semblable d'un autre homme de Dieu qui essayait de comprendre les choses avec sa propre intelligence. Il était bouleversé, il était perplexe, il était jaloux même des méchants qui allaient bien. Il était même en colère contre Dieu qui permettait que de telles choses arrivent. Pourquoi est-ce que moi, ton serviteur, je passe par toutes ces choses et puis eux, ils sont contents, ils font la fête, ils sont gras, gros, etc. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas le résultat de mes efforts, de mon travail. On se moque de moi, on me ridiculise, on me dit « Où est ton Dieu ?» etc. Donc l'homme était bouleversé, perplexe. En colère même, je dis, contre Dieu. Tant qu'il regardait les choses, les événements, les circonstances de la vie avec les yeux de ce monde, il avait mal à la tête. C'est ce qui se passe parfois lorsque nous regardons, nous essayons de comprendre les choses avec notre propre intelligence. On a mal à la tête, on est perplexe, on est bouleversé, on est jaloux, on est en colère. Mais au psaume 73, verset 16, il est dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et là, j'ai compris. Là, la paix est venue. La colère est partie. La haine est partie. Et la paix de Dieu est entrée. La lumière de Dieu est entrée. Et c'est ce qu'a fait Néhémie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à adorer le Seigneur. Il commence à adorer le... Oui, il est bon de réfléchir, puisque Dieu nous a dotés d'une intelligence pour quelque chose, pour que nous puissions nous en servir. Mais il y a des moments où il faut arrêter de réfléchir et entrer seulement dans la présence de Dieu. Amen. Alors les idées s'éclaircissent. Notre entendement est renouvelé. Nous voyons les choses comme Dieu les voit, non plus comme les hommes. C'est pourquoi aussi, des fois, le monde ne nous comprend pas. En effet, nous avons l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui nous révèle les secrets de Dieu, cachés aux yeux de ce monde parce qu'ils sont rebelles, aveuglés par le diable. Le monde ne nous comprend pas. Ils n'ont pas l'Esprit de Christ. Ils n'ont pas la parole de Dieu qui les éclaire. Ils ne voient que les circonstances. Juste hier soir, je lisais la biographie d'un grand homme de Dieu, Hudson Taylor, et il raconte une de ses expériences. Vous savez, Hudson Taylor qui avait été missionnaire en Chine, à l'intérieur de la Chine. Alors, quand il raconte une de ses expériences avant d'aller en Chine, et alors il avait vécu une situation, un médecin lui a dit, va, rentre chez toi, va mourir. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a guéri, il a survécu. L'homme ne comprenait pas. Il dit, est-ce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout ça. Et donc voilà. Donc le monde ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui sont humbles, qui savent qu'ils sont limités et qu'ils ne savent pas tout. Un cosmonaute soviétique est allé dans l'espace. Et puis il est revenu sur Terre. Et puis il a dit à un de ses camarades, « Je suis monté, je n'ai pas vu Dieu. » Et le camarade de lui dire, pour voir Dieu, il ne faut pas monter, mais il faut descendre. C'est à genoux qu'on voit Dieu. Ce n'est pas en se bombant la poitrine comme le pharisien qui disait qu'il n'était pas comparable à ce publicain qui priait à côté de lui, face contre terre. Dans Luc 18, versets 9 à 14, il est écrit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. » Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. » Et celui qui s'abaisse sera élevé. Toute prière commence par l'adoration, s'humiliant devant Dieu, le reconnaissant pour qui il est. Tu ne peux pas prier correctement si tu ne reconnais pas celui à qui tu adresses ta prière. Écoutez bien comment Néhémie prie. Hein? Ô Éternel! Hein, éternel, celui qui est éternel. Ô éternel, Dieu des cieux. C'est le Dieu des cieux, ce n'est pas un bout de bois. Hein? C'est pas Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà le Dieu à qui il s'adressait. C'est ça l'adoration, reconnaître Dieu pour qui il est. Seigneur, tu es grand. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Avant toi, il n'y avait personne et après toi, il n'y aura personne. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui ne change pas. Le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui parle et la chose s'accomplit. Donc, Néhémie est entré en adoration. Dieu. Donc, il a arrêté de regarder les circonstances. Il s'est fixé ses regards sur Dieu. Dans l'adoration. Et alors, quand il a vu Dieu, il a compris aussi qu'il était un pécheur. Et là, c'est la confession. L'adoration véritable conduit à la confession. Quelqu'un a dit, c'est dans la présence de Dieu que l'homme se voit tel qu'il est et qu'il reconnaît le péché pour ce qu'il est. Tu vois, tant que tu es avec les hommes, tu peux dire, ah oui, je suis supérieur à toi, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, toi tu n'as rien fait. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, à ce moment-là, tu te vois tout petit. Tu te vois tout petit et là, toutes les comparaisons s'évanouissent. Là, on ne peut pas se comparer à lui. Il est le grand Dieu redoutable. Et donc, c'est dans la présence de Dieu que l'homme se voit tel qu'il est et qu'il reconnaît le péché pour ce qu'il est. Une offense directe contre Dieu. Là, tu vois ce que sont tes péchés. Sans être dans la présence de Dieu, tu dis, ah oui, moi, je suis bien, moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Je n'ai jamais commis de meurtre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Jésus dit, par rapport, on va prendre l'exemple d'adultère, celui-même qui regarde quelqu'un, donc... avec convoitise, a déjà péché. Donc, déjà, parce que Dieu, Jésus, ce qu'il considère, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, celui qui tue. Mais il dit, maintenant, moi, je te dis, si tu te mets même en colère contre ton frère, tu as déjà péché. Parce que la colère mène au meurtre. Donc, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu vois le péché tel qu'il est. Il n'y a plus d'excuses. Et alors, Néhémie va confesser ses péchés. Maintenant, regardez ici, il dit, verset 6, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Maintenant, il n'a pas dit, « Ah, ce sont eux qui ont péché. » Mais il a dit non seulement les péchés des enfants d'Israël, mais il a dit nos péchés. Il est solidaire avec son peuple, en quelque sorte. « Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Dans la présence de Dieu, Néhémie reconnaît ses péchés et les péchés de son peuple. Il reconnaît que la situation actuelle des réchappés des Juifs en Juda est la conséquence de leur désobéissance. Mais en faisant cette constatation, il ne se met pas sur un piédestal d'où il jugerait son peuple, comme ce pharisien dans Luc 18. Bien plus tôt, il s'identifie à lui, comme Esdras avant lui. Si vous lisez Esdras 9, versets 5 à 15, vous verrez que c'est la même attitude qu'Esdras a eue. Il a confessé ses péchés et les péchés de son peuple. Il a dit, nous avons péché. Comme Daniel également, dans Daniel 9, versets 4 à 19. Daniel va confesser ses péchés et les péchés de son peuple. Il va dire, nous avons péché. Néhémie était solidaire de son peuple et montre toute sa compassion. Donc c'est extraordinaire de voir l'homme de Dieu qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît les péchés de son peuple. Et donc, sur base de ça, maintenant, une fois qu'il a confessé ses péchés, une fois qu'il est sur le terrain de la grâce, Néhémie va maintenant intercéder pour son peuple en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est la prière selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous pouvons être certains qu'il nous répondra. C'est cela, prier au nom de Jésus ou par l'autorité de Jésus. Alors, verset 7, écoutez comment Néhémie prie. « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, non seulement ton serviteur, et à la prière des serviteurs qui veulent craindre ton nom. Parce que Néhémie savait qu'il n'y avait pas que lui qui priait pour son peuple. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donc Néhémie pense déjà à ce qu'il va faire, hein, se présenter devant le roi. Et donc il dit, c'est pour ça qu'il dit plus tard, hein, j'étais alors échanson du roi. Donne du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Parce qu'il sait que tout vient de Dieu. Mais Dieu utilise des hommes pour accomplir ses plans. Amen. Donc, Néhémie s'est basé sur les promesses de Dieu, les promesses que Dieu avait faites à Moïse. Si vous lisez dans Deutéronome, ce sont des paroles de Deutéronome 30, hein, que Néhémie est en train de citer là. Hein. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ce que tu as dit à Moïse. C'est vrai, tu avais dit que si nous péchions, eh bien, on allait être exilés. Mais tu avais dit aussi que si on revenait à toi, alors peu importe là où on était exilé, même si c'est au bout de la terre, à l'extrémité du ciel, eh bien, tu vas nous ramener. Et en plus, tu vas nous faire du bien. Donc, ils disent, Seigneur, souviens-toi de ça. Et c'est comme ça que Néhémie a prié. Et c'est comme ça que David a prié dans 2 Samuel 7, versets 25 à 29. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Amen. Prions selon la parole de Dieu. Saisissons les promesses de Dieu. Et dit, Seigneur, souviens-toi de ta parole. David dit, que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Seigneur, si je te prie, c'est parce que toi-même, tu m'as fait cette promesse. Vous comprenez? C'est ça, prier sur l'autorité de Jésus, en nom de Jésus. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Et plus tard, Salomon va un peu prier de la même façon. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Roi, chapitre 8, versets 25-26. « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que ta fils prenne garde à leur voie et qu'il marche en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Oui, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse. Plus tard, Daniel priera encore de la même façon. Daniel 9, verset 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi au royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel dit, j'ai lu dans Jérémie que, l'exil durerait 70 ans. Donc, Seigneur, je te prie, eh bien, que ta promesse s'accomplisse. Amen. Que ta promesse s'accomplisse. Dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens ont prié de la même façon. Dans Actes 4, versets 24 à 31, écoutez ceci. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Ils sont en train de citer psaume 2, je crois. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Dieu ne peut pas nous répondre lorsque nous prions pour nos désirs personnels égoïstes, pour épater les autres. Mais lorsque nous prions, eh bien, sur la base de sa parole, eh bien, le Seigneur nous répond. Amen. Parce que le Seigneur, il est bon. Il respecte sa parole. Dans Jacques, il est dit, eh bien, vous priez, vous n'avez pas parce que vous avez des mauvais désirs. Hein? Et ce n'est même pas des besoins, mais c'est des désirs, hein, juste pour épater les autres, pour dire je suis. Mais lorsque vous priez selon le cœur de Dieu, eh bien, il répond. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, c'est-à-dire un moment où, lorsque ton désir et le désir du Seigneur ne font plus qu'un. Et à ce moment-là, tu es sûr. Tu es sûr que le Seigneur te répond. Tu es sûr que le Seigneur te répond. Tu es sûr que le Seigneur te répond. Que le Seigneur nous donne la compassion de Néhémie. Que le Seigneur nous donne d'adorer comme Néhémie. Que le Seigneur nous donne de confesser nos péchés, péchés de nos familles, de notre peuple, de notre nation, comme Néhémie. Et qu'il nous donne aussi de savoir intercéder comme Néhémie, sur la base des promesses de l'Éternel. Donc connaissons cette parole. Si vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous pouvez demander? Hein? Donc, méditons cette parole, jour et nuit. Que cette parole sature notre esprit. Que notre cœur soit rempli de compassion, d'amour. D'amour pour notre Dieu, d'amour pour les frères et sœurs. D'amour pour le monde, comme Dieu lui-même y a dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour qui l'a poussé pour venir jusqu'à nous. C'est cette compassion pour nous qui l'a poussé à venir jusqu'à nous. Alors que nous étions chacun errant, suivant sa propre voie. Mais Dieu, par amour, il est venu à nous. Puissions-nous être vraiment des enfants de Dieu qui ont ce même amour, cette même compassion. Avoir, comme Jésus, la compassion pour la foule. Jésus, il a vu qu'ils étaient languissants. Et Jésus a eu compassion d'eux. Jésus, enseignant la foule, il a vu qu'ils avaient faim. Il disait, nourrissez-les. Et les disciples essayent de trouver des excuses. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il y a de l'argent? Où est-ce qu'on va faire? Mais si c'est la volonté de Dieu, on va nourrir la foule. Amen. Prions le Seigneur.